Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Plus de 3000 cas de violations des droits des enfants ont été documentés en 2020 en RDC. C'est ce qui ressort de la conférence de haut niveau organisée hier mercredi à Kinshasa par les ambassades de Belgique, de Suède, de Norvège, du Canada, l'UNICEF et la MONUSCO. Selon l'UNICEF, 82% de ces violations sont commises par les groupes armés et concernent essentiellement les recrutements des enfants et les violations sexuelles. Quelle lecture faire de cette situation et que faut-il pour prévenir les violations des droits des enfants dans les zones en conflit en RDC? C'est l'objet du débat de ce soir et nous recevons dans cette émission Maître Robert Kambale Lufungula. Il est ministre provincial en charge de la justice et des droits humains du gouvernement provincial du Nord Kivu. Bonsoir Maître Robert Kambale Lufungula.
Bonsoir Monsieur le journaliste.
Maître Juvenal Munubo Mubi, député national élu de Walika le Nord Kivu, cadre de l'UNC, parti membre de la coalition au pouvoir et rapporteur de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Bonsoir Maître Juvenal Munubo Mubi.
Bonsoir Monsieur Guy, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Et Joseph Godet Kayembe, il est président du conseil d'administration de la Ligue de la zone Afrique pour la défense des droits des enfants et des élèves, l'ISADEL en sigle. Bonsoir Joseph Godet Kayembe.
Bonsoir.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
Nous le disions au sommaire de cette émission, plus de 3000 cas de violation des droits des enfants ont été documentés en 2020 en RDC. C'est ce qui ressort de la conférence de haut niveau organisée ce mercredi ici à Kinshasa par les ambassades de Belgique, de Suède, de Norvège, du Canada, l'UNICEF ainsi que la MONUSCO. Selon l'UNICEF, ces violations concernent essentiellement le recrutement des enfants et les violations sexuelles. Paul Matendo pour les détails.
À entendre Flore Rossi de l'unité de protection des enfants à l'UNICEF, ces violations sont commises par les groupes armés.
Donc on le voit, le premier c'est les Maïmaï et Mozambé, suivi des Nyakura. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a les CODECO. Donc les CODECO, c'est pour la première fois qu'ils apparaissent clairement dans le rapport annuel.
Pour sa part, Henrik Resbrand, ambassadeur de Suède en RDC, la lutte contre les violations du droit des enfants est une affaire de tous les partenaires étatiques et non étatiques.
C'est l'engagement de nous tous afin d'avancer sur ces questions et d'améliorer la situation des enfants victimes de conflits armés dans le monde et en RDC.
Parmi les pistes des solutions, le général-major Joseph Mutombo, coordonnateur du groupe de travail technique sur les enfants et les conflits armés, propose l'évaluation du programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion.
Il faudrait qu'on commence par faire une évaluation, claire, objective, de la mise en œuvre du PNDDR depuis 2013.
Cette conférence a connu la participation de plusieurs personnalités telles que la conseillère spéciale du chef de l'État et de plusieurs ONG internationales.
Merci à vous Paul Matendo. Maître Robert Kambale Lufungula, je rappelle que vous êtes ministre provincial en charge de la justice et des droits humains du gouvernement provincial du Nord Kivu. Plus de 3000 cas de violation des droits des enfants ont été documentés en RDC en 2020. Et selon l'UNICEF, 82% de ces violations sont commises par les groupes armés et concernent essentiellement les recrutements des enfants et les violations sexuelles. Et comment vous réagissez face à ces informations?
Merci de m'avoir convié à participer à cette émission de Radio Okapi. Je salue toute l'équipe. Les intervenants ainsi que tous les auditeurs.
Merci.
Je voudrais justement souligner que le Nord Kivu, ma province, est secoué parmi tant d'autres provinces du couloir Est par des guerres récurrentes, par des groupes armés et étrangers comme Logo. Alors, il faut avouer que la situation telle que décrite aujourd'hui, ça nous inquiète, mais elle peut justement s'expliquer par le fait que les mouvements insurrectionnels, les groupes armés locaux étrangers, à dépit de tout ce qui est fourni comme effort, n'ont pas connu de recul. Donc il n'y a pas vraiment assez d'avancées, d'autant plus que nous avons une population qui sont obligés, qui sont contraints de quitter leur milieu naturel. Et du fait de tous ces mouvements-là, il est difficile d'essayer de contenir la situation. Alors, je dois avouer justement que la loi 009/001 du 10 janvier 2009 portant protection de la femme par la République démocratique du Congo, ainsi que d'autres instruments internationaux auxquels notre pays a adhéré, sont très très rigoureux et il faut avouer qu'il y a quand même des efforts. Mais le fait que nous sommes restés depuis plus maintenant de 2 ans avec l'avènement de la pandémie pour le Nord Kivu, l'épidémie de maladie à virus Ebola, et quelques temps après la déclaration de sa fin, l'avènement de la pandémie de COVID-19, n'ont pas quand même facilité la tâche à tous ces groupes conjoints techniques de travail pour essayer de persuader ceux de seigneurs de guerre qui continuent à recruter les enfants au sein de leur mouvement insurrectionnel.
Maître Robert Kambalé.
Oui.
Oui, il est dit que 82% de ces violations sont commises par les groupes armés et concerne essentiellement le recrutement des enfants et les violations sexuelles. Et s'il faut faire une sorte de comparaison avec les années écoulées, peut-on dire quoi? Est-ce qu'il y a eu en 2020 une évolution positive dans la lutte pour la promotion des droits des enfants en RDC, ou peut-on parler plutôt d'un recul?
Moi, je pourrais parler plutôt de recul. D'autant plus que je venais d'évoquer le fait qu'il y a eu justement des traques des groupes armés, mais on n'a pas enregistré beaucoup de succès. Ça, il faut l'avouer. Je dois aussi ajouter que je venais de le dire tantôt que avec les deux grandes maladies, essentiellement l'épidémie de la maladie à virus Ebola, à l'avènement de la COVID-19, il n'y a pas eu beaucoup de déploiements sur terrain. Parce que je sais que c'est grâce, par exemple, au groupe technique de travail conjoint dans lequel est impliqué la MONUSCO, l'UNICEF, ainsi que d'autres partenaires qui sont sur les questions de protection de la femme. Le gouvernement de la République, au niveau central, même au niveau provincial, nous avons essayé de travailler à commun accord pour essayer de faire reculer cette situation de violation des droits des enfants. Alors, pour l'instant, parce que je suis heureux que ça soit seulement les groupes armés, les seigneurs de guerre qui recrutent à gauche et à droite, parce que vous savez, il y a cela 4 ou 5 ans, et même notre armée a été listée sur des armées qui avaient à son sein des enfants. Mais c'est grâce aux efforts au niveau du gouvernement national et provincial, mais aussi des partenaires, que les FRDC ont été délistés. Et donc, je crois que au regard de l'activisme des groupes armés nationaux et étrangers, mais au regard aussi de l'avènement des maladies qui ont bloqué ou paralysé un certain nombre d'activités, qui a rétréci même les mouvements des uns et des autres, il n'y a pas eu assez de sensibilisation auprès des seigneurs de guerre pour leur demander de lâcher ces petits enfants qui, du reste, sont arrôlés sans consentement parce qu'ils n'ont pas la capacité.
Voilà, donc, vous dites qu'il n'y a pas eu assez de sensibilisation, n'est-ce pas? Vous avez évoqué beaucoup de raisons, notamment les raisons sanitaires, les raisons sécuritaires. Et en dépit de la volonté exprimée par la communauté internationale à travers notamment les instruments juridiques tels que la Convention relative aux droits de l'enfant dans son article 38, vous avez parlé aussi de la loi sur la protection des enfants. On sait qu'il y a eu aussi, n'est-ce pas, autant de procès organisés par les juridictions internationales et qui ont abouti à des lourdes condamnations de certains responsables politiques à travers le monde et des seigneurs de guerre. Peut-on dire que tous ces efforts, n'est-ce pas, qui ont été fournis, toutes ces pressions qui ont été faites, tout cela n'a pas suffi pour dissuader les seigneurs de guerre?
Non, je dois avouer que ce travail ou ce procès a enregistré beaucoup de succès, que ce soit pour les FRDC, mais aussi pour un certain nombre de groupes armés. Mais je puis vous dire que ces procès ont intervenu essentiellement entre 2016 et 2017, et donc depuis 2018, il n'y a pas eu justement assez de procès. Donc c'est quand même quelque chose, il faut l'avouer, qui pourrait être aussi à la base de cette recrudescence. Et donc, il faut revenir par là. Quelqu'un venait justement de le souligner que aussi le fait que le programme DDRC n'a pas enregistré beaucoup de succès. Nous savons que le chef de l'État est résolument engagé. Et donc, nous sommes très, très impatients de voir ce programme être relâché. Au besoin, comme l'a souligné un intervenant, disait, il faut une sorte d'évaluation et le mettre rapidement en marche. Parce que je peux vous avouer, par exemple, pour la question de Randi, la province du Nord Kivu vient très à tête à terme de Randi qui attendent ces programmes-là. Et donc, je crois que c'est tous ces efforts combinés. Donc, le fait que non seulement il faut parler avec les seigneurs de guerre, il faut aussi une sorte de pression sur, au niveau militaire. Donc, au niveau de l'armée, il faut aussi la pression. Et tous ces efforts conjugués, nous pensons que les violations des droits des enfants peuvent reculer suffisamment et on peut espérer avoir une jeunesse assez responsable, une jeunesse sur qui la République peut compter.
Alors, pourquoi il y a cette sorte de relâchement au niveau national? Est-ce que les autorités du pays attendent qu'il y ait de telles révélations faites par les partenaires étrangers pour que l'on puisse se réveiller, on puisse sortir de cette sorte de léthargie afin de réagir?
Bon, je ne crois pas, mais il faut avouer que peut-être qu'il y a un certain nombre de présentateurs liés peut-être beaucoup d'événements, beaucoup de transitions, mais je crois qu'il faut justement se réveiller. Il faut justement se réveiller et ne pas attendre la situation pourrir comme c'est le cas aujourd'hui.
Merci, Maître Robert Kamal et Le Fungula. Nous gardons encore dans cette émission Maître Juvenal Munubo Mubi, député national élu de Walikale au Nord Kivu, cadre de l'UNC, parti membre de la coalition au pouvoir et rapporteur de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Comment vous réagissez à ces révélations faites lors de la conférence de haut niveau organisée ici à Kinshasa, des révélations selon lesquelles plus de 3000 cas de violations des droits des enfants ont été documentés en RDC en 2020?
Merci beaucoup pour l'invitation à cette émission. Je salue Monsieur le ministre Robert Lufungula ainsi que Monsieur Godet Kayembe. Connaissant bien la situation sur terrain, parce que moi-même j'ai travaillé dans ce domaine de la lutte contre le recrutement des enfants soldats. J'étais chargé du programme d'aide à la Caritas Goma entre 2006 et 2011. Et connaissant bien la situation sur terrain et connaissant aussi l'engagement de nos partenaires aussi de la communauté internationale, la MONUSCO qui est là présente, les divers acteurs, je ne peux pas dire que c'est faux, c'est ce tableau. C'est un tableau sombre, c'est un tableau préoccupant et ça devrait interpeller tout le monde. Ça devrait interpeller davantage les autorités congolaises, ça devrait interpeller davantage la communauté internationale. Bref, ça devrait interpeller tout le monde et les interpeller davantage. La situation ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis le début des années 2000 qu'on parle de l'utilisation des enfants, des recrutements, l'utilisation des enfants dans les groupes armés, qui s'accompagne aussi des violences sexuelles, parce que de mon expérience, il y a trop peu de filles qui étaient relâchées par les groupes armés, parce que ces filles étaient utilisées justement comme des esclaves sexuels. Et on se poserait la question, est-ce qu'il n'existe pas des lois, est-ce qu'il n'existe pas un cadre programmatique? Je pense que sur le plan normatif, il n'y a pas de problème, parce qu'il existe le programme national DDR depuis 2004, et dans ce programme, il y a ce qu'on appelle le cadre opérationnel pour enfants. Il existe beaucoup de lois, la loi portant protection de l'enfant dont a parlé le ministre tout à l'heure. Il y a des conventions internationales qui ont été signées et ratifiées par la République démocratique du Congo. Au niveau international, même au niveau du terrain, il y a ce qu'on appelle le mécanisme de vérification des violations des droits des enfants. Il y a 6 violations qui ont été répertoriées, 6 types de violations. Il y a les massacres, mutilations, il y a les recrutements et utilisation des enfants dans les groupes armés, il y a les attaques contre les écoles et les hôpitaux, il y a les violences sexuelles dont on parle dans cette émission, il y a les enlèvements d'enfants et les refus d'accès à l'aide humanitaire.
Vous dites que les mécanismes existent, vous avez cité un certain nombre d'instruments juridiques et vous concluez en disant que sur le plan normatif, tout est ok, tout est bon, donc nous avons une certaine richesse sur ce plan-là. Alors donc le problème c'est l'application de ces textes.
Oui, il y a d'abord l'application du DDR lui-même. Il y a eu beaucoup de faiblesses évidemment et les maillons faibles du DDR enfant c'était la réinsertion. n'y a pas eu assez de sérieux dans la réinsertion, dans les suivis de la réinsertion. Au niveau de la Caritas dans laquelle j'ai travaillé, il y a eu des efforts qui ont été effectués. Mais je ne peux pas généraliser pour dire que le travail était bien fait par tous les acteurs. Mais en tout cas, au niveau de Caritas, moi je peux vous témoigner, on a pu insérer plus de 1000 enfants, en tout cas pendant la période que j'étais là, et c'était une réinsertion sur le plan scolaire essentiellement, parce que pour des enfants qui peuvent encore continuer avec l'école, on leur donnait un appui, un accompagnement scolaire, et pour ceux-là qui ne peuvent pas le faire directement, on cherchait des activités un peu génératrices des revenus. Mais le travail n'a pas été d'une manière globale. Je ne vois pas seulement ce qu'a fait Caritas, mais d'une manière globale, il n'y a pas eu beaucoup de succès à ce niveau ici. Hein. C'est vrai, il y a quelques procès emblématiques à la Cour pénale internationale, mais il n'y a pas eu beaucoup de procès sur terrain des anciens rebelles qui pouvaient vraiment donner de l'exemple et faire taire. Et donc, dans ce cadre-là de la lutte contre l'impunité, je crois qu'il y a encore beaucoup à faire.
Voilà.
Évidemment, la sensibilisation en termes de prévention, ça doit être une activité permanente. Il faut que l'État, les gouvernements utilisent tous les canaux possibles, tous ceux-là qui ont de l'influence dans la communauté pour porter les messages vers les groupes armés. Et ça, ça doit être fait, ça doit être appuyé par les gouvernements, et il ne faut pas que ce soit des actions isolées des ONG.
Oui, quand l'on analyse la situation socio-économique difficile de la RDC depuis plusieurs années, avec ses conséquences néfastes sur notamment l'accès à l'éducation, à l'emploi, aux soins de santé, à l'habitat et, ou aussi à une nourriture saine, ne peut-on pas dire que les chiffres avancés par ses partenaires extérieurs ne reflètent pas la réalité? Est-ce qu'on peut se permettre de parler en termes des centaines, des milliers de cas de violation des droits de l'homme des enfants en RDC?
Alors, moi, je ne pense pas qu'on puisse se focaliser sur une vérification de ces chiffres. Moi, je sais que c'est des organisations crédibles qui sont sur terrain. Au fait, ce que moi je retiens de ces chiffres, que ce soit 3000, que ce soit 2000, que ce soit un peu plus de 3000, c'est que le problème est réel, c'est que nos enfants, les enfants congolais, continuent à souffrir de différents maux. Il y a la pauvreté qui frappe beaucoup de gens, beaucoup de Congolais à l'Est, beaucoup de familles, beaucoup de ménages, mais à part la pauvreté, il y a des violations liées à la guerre, liées au conflit, le recrutement dans l'armée, des violences sexuelles, il y a des cas de maladies, et là où il n'y a pas la guerre, par exemple au Kasaï, il y a beaucoup de cas de malnutrition. Difficile d'accès à l'eau potable. Je vois les cas de beaucoup d'enfants dans les Nyiragongo, tout près de Goma d'ailleurs. Donc ça doit nous interpeller. Donc au lieu de nous attarder sur le débat autour du chiffre ou autour des estimations, parce que le plus souvent c'est des estimations d'ailleurs, comme vous le savez, ce ne sont pas souvent des chiffres vérifiés avec exactitude, c'est souvent des estimations qu'on avance. On ne peut pas se focaliser là-dessus, mais ce qui nous intéresse et doit interpeller les décideurs, c'est que le problème reste réel. Eh bien, il faut libérer ces enfants encore otages des groupes armés. Il faut mettre fin à la guerre, il faut neutraliser les groupes armés. Le Congo a signé l'accord de d'Addis Abeba. D'abord, il y a eu l'accord de Nairobi, le pacte de Nairobi, mais il y a l'accord d'Addis Abeba qui prévoit un certain nombre d'engagements du Congo, notamment la restauration de l'autorité de l'État, la neutralisation des groupes armés. Eh bien, il faut des efforts dans ce sens-là. Il faut conjuguer des opérations militaires avec la MONUSCO. Il faut bénéficier de cette présence encore ici de la MONUSCO. Bref, il faut des résultats. Il faut pacifier l'Est. Et il faut impliquer les populations aussi. Il faut une union sacrée pour le retour de la paix à l'Est. Il faut toute une union sacrée entre les FARDC, la population locale, la société civile, la MONUSCO. Il faut vraiment une union sacrée sécuritaire pour que la paix revienne à l'Est. C'est ça l'interpellation qui doit être envoyée de manière tout à fait directe aux autorités. Et moi, ça me touche aussi, ça m'interpelle en tant que l'un des décideurs, parce que je suis député. Et puis, c'est une interpellation aussi à la communauté internationale, parce que les conflits ne peuvent pas se pérenniser comme ça. Et pourtant, il y a toute une mission, la plus grande d'ailleurs, mission de maintien de la paix ici. Les souffrances continuent et les enfants en payent les lourds tributs, et pourtant c'est l'avenir de ces pays.
Voilà, vous avez évoqué l'accord cadre d'Addis Abeba, et nous annonçons que d'ici le 24 février, ça sera le huitième anniversaire, n'est-ce pas, de cet accord. Et je pense que ce serait une occasion, n'est-ce pas, pour faire l'évaluation de la mise en application de cet accord.
Exact, oui, il faut évaluer, et là je suis d'accord avec le ministre, hein, il faut évaluer les DDR, c'est très important, il faut évaluer tous les engagements qui ont été pris par la RDC et notamment la COCA d'Addis Abeba. Mais il y a une évaluation qui interne, on peut le dire comme ça, qui devait être faite de manière régulière, c'est l'évaluation par le mécanisme national de suivi. Il existe un mécanisme national de suivi avec un coordonnateur. Son travail, justement, ça devait être de suivre au pas à pas, de réveiller les parlementaires, de réveiller les gouvernements, de les secouer, et de leur dire, ok, la RDC avait pris tel engagement, tel engagement, tel engagement, où est-ce que nous en sommes?
Si.
Où sont les indicateurs? Donc c'est un travail qui doit être fait de manière régulière. Je sais, je pense que ça se fait, ce travail.
Merci.
Mais il faudrait une évaluation avec l'ensemble des partenaires dans la région. Quel est le rôle des pays voisins dans tout ça? Est-ce
Merci.
Qu'il contribue efficacement à la paix? Ces pays voisins ne sont-ils pas encore en train de berger ceux-là qui peuvent déstabiliser la paix ici?
Voilà, d'où l'importance, l'évaluation, n'est-ce pas, de cet accord cadre d'Addis Abeba. Joseph Ogodé Kayembe, vous êtes président du conseil d'administration de la Ligue de la zone Afrique pour la défense des droits des enfants et des élèves, l'ISADEL en sigle. Plus de 3000 cas de violation des droits des enfants ont été documentés en RDC en 2020. Et comment vous analysez ces chiffres?
Avant d'arriver à ces chiffres, je voudrais placer mot. Robert Kambalé a parlé. Il parle de mouvements insurrectionnels dans ce pays. Il parle des seigneurs de guerre complètement civilisés. Il parle des tueries qui sont permanentes. Mais moi, je sais qu'il m'étonne à l'aise. La plus grande question que je me pose, quand bien même on peut utiliser l'armée qui arrive dans un secteur où la population a des complicités avec les agresseurs. Lorsqu'on doit identifier les seigneurs de guerre, c'est connu. Lorsqu'on met la main sur eux, c'est si la guerre termine. Vous avez vu comment en Angola, lorsqu'on a mis fin, on a tué Savimbi, la guerre est terminée. Le combat, la guerre que nous menons, qui est à l'Est, devrait être orienté. Nous, sinon, les Congolais, qui sont les droits de l'homme et d'autres, et le gouvernement, devait faire le plaidoyer pour la fondation des multinationales qui mènent la guerre économique à l'Est. À l'Est, il n'y a pas la guerre, c'est la guerre économique.
Joseph Godé Kayembe.
On tue les Congolais et on tue les frères et sœurs.
Joseph Godé Kayembe.
On a besoin de la paix à l'Est pour discuter des cas, des 3000 cas d'enfants qui sont violés, violentés, et des violences sexuelles qui sont faites aux enfants, les enfants qui sont recrutés. Mais pour y mettre fin, on doit d'abord réfléchir comment mettre fin à la guerre. Même quand on parle du programme DDR, ce programme, on l'applique lorsqu'il y a la paix. Comment on va faire le DDR dans une conjoncture où les enfants sont violés de manière permanente, sont tués de manière permanente, sont recrutés dans l'armée de manière permanente? La première chose, la plus importante, au lieu de perdre le temps dans les conséquences, tout ce qui se passe aujourd'hui avec la participation des bailleurs de fonds, on travaille sur les conséquences. Les enfants sont violés, on les récupère, on leur donne un peu de médicaments. Les enfants sont récupérés, on les prend, on les réinsère dans la famille le lendemain. La famille est en fuite et ça ne va pas régler le problème.
Joseph Ogodé Kayembe,
sur la solution.
Voilà, vous insistez sur la situation des guerres, ces guerres récurrentes qui sont à la base de ces violations croissantes, n'est-ce pas, des droits des enfants. Mais il y a aussi un autre aspect, hein, c'est la situation socio-économique que nous connaissons dans ces pays depuis plusieurs années. Est-ce qu'on peut espérer combattre les violations des droits des enfants lorsqu'on a du mal à améliorer les conditions de vie des citoyens en général?
Je pense que ça marche de pair. Le plus important, c'est la paix. On ne peut pas développer un pays qui est en guerre. Ça n'existe nulle part au monde. Et lorsqu'on a la paix, on peut commencer à appliquer différents programmes. Même tous les instruments dont on fait allusion pendant la guerre, ça ne s'applique pas, c'est compliqué. Donc je crois que le plus important pour l'instant, c'est lutter pour que nous ayons la guerre à l'aide. Et la guerre, la paix va venir lorsque la source est maîtrisée. Les multinationales qui sont en train de l'utiliser, les seigneurs de guerre, qui sont les Congolais bien entendu, pour pouvoir s'enrichir sur le dos de ces gens, je crois que c'est là où on doit axer les combats. Et ça nous permettra de pouvoir appliquer tous les programmes possibles. Ceux qui ont violé les droits de l'enfant peuvent être sanctionnés. Tous les programmes peuvent être appliqués. Mais pour l'instant, ce n'est qu'une diversion. Ou sinon, c'est quelque chose qui ne va pas nous permettre d'obtenir les résultats. Et vous rappelez le programme DDR qui a été à l'époque mis en œuvre. Ce programme, c'est à la suite d'entente entre les seigneurs de guerre et finalement les enfants qui étaient recrutés dans l'armée ont été récupérés, réinsérés dans leur famille, et les autres qui étaient très jeunes ont été orientés dans d'autres filières. Mais pour l'instant, pendant qu'il y a la guerre, tout ce programme de la compensation est appliqué comment? Si ce n'est qu'une recherche de moyens d'argent pour pouvoir justifier, comme le Congo, c'est un terrain d'expérimentation où les gens cherchent l'argent de manière permanente.
Alors, parler des 82% de ces cas de violations qui sont commises par les groupes armés et qui concernent essentiellement les regroupements des enfants et les violations sexuelles, pendant que l'on sait que beaucoup d'enfants ne sont pas alimentés comme il se doit, et beaucoup n'étudient pas, et même ceux qui essaient d'étudier sont obligés, n'est-ce pas, de se soumettre à certaines contraintes pour aider leurs parents. J'ai posé la même question à l'honorable Juvenal Mounoubo Moubi. Est-ce que les chiffres avancés par ces partenaires extérieurs reflètent effectivement la réalité de la situation que les enfants congolais vivent? Est-ce qu'on ne peut pas se permettre de parler en termes des centaines, des milliers de cas de violation des droits des enfants à travers les pays? Vous qui êtes dans ce secteur-là depuis longtemps.
Je crois que les institutions internationales, notamment l'UNICEF qui s'implique, qui a la charge de la protection de l'enfant au niveau international, ne peut pas avancer n'importe quel chiffre. Ce sont les chiffres qu'ils ont vécu. Et d'ailleurs, je voudrais corriger Maître Robert lorsqu'il parle de qu'il n'y a pas d'avancée. Rappelez-vous qu'à l'époque, il y a eu plus de 6 millions de personnes qui sont mortes aujourd'hui. Il n'y a pas comme avant. Il y avait des centaines de milliers d'enfants qui étaient recrutés dans l'armée. Ce n'est plus le cas maintenant. Donc il faut considérer qu'il y a eu des avancées. Mais seulement, nous déplorons que ça puisse continuer.
Maître Robert Kambale Lufungula, vous allez réagir. Hein. Il y a les auditeurs et les internautes qui ont aussi donné leur point de vue par rapport à ces thèmes. Vous allez, Maître Robert Kambale Lufungula, vous allez réagir à cette réflexion qui vient d'un auditeur qui nous appelle depuis Kananga au Kasaï central.
C'est Alphonse Kefou à Kananga, dans la province centrale. Il faut lutter contre la pauvreté et créer des emplois pour diminuer les violations des droits des enfants au Congo. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les ambassades doivent aider la RDC à éradiquer les problèmes de violation des droits des enfants et chercher à réintégrer ces enfants dans la société et de faire des conférences qui n'apportent rien. La plupart ayant été abandonnés par leurs parents, ils préfèrent se prendre en charge. Vulnérables qu'ils sont, ils sont laissés à la merci de tout.
Maître Robert Kambale Lufungula, votre réaction.
Merci pour l'intervenant. Je voudrais d'abord saluer l'intervention de mon frère honorable Mounoubo Juvenal, qui a travaillé pendant longtemps avec Caritas dans ce programme, mais aussi de mon prédécesseur intervenant, et essayer aussi de souligner que personnellement, en tant que membre du gouvernement, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'avancée. D'ailleurs, si vous vous rappelez, j'ai dit qu'il y a eu des avancées, et ce sont ces avancées-là qui ont fait à ce que même les FRDC soient délistés, si vous voulez, de la liste des armées qui avaient associé des enfants. Et il faut saluer les efforts, d'autant plus qu'au niveau du gouvernement central, même au niveau du Parlement, on avait levé l'option, vous vous rappelez, de ne pas intégrer tous les membres des groupes XY lors des désengagements, mais d'essayer d'étudier au cas par cas. Donc c'est ce qui a permis que les FRDC soient délistés. Parce qu'à l'époque, justement, un intervenant, je crois que c'est Juvenal Mounoubo qui l'a dit, l'honorable, à l'époque, à l'issue de pourparlers, on devait déverser tous les éléments des seigneurs ou de deux ou trois seigneurs dans l'armée. Et après étude, on s'est rendu compte que quand même l'armée constitue ce que nous appelons le système immunitaire pour un organisme humain, et que donc on ne devait pas y déverser n'importe qui. C'est comme ça que on est passé à des opérations ou mixage à l'époque, et on a dit à chaque fois qu'il y a un groupe armé qui voudrait se désengager, que la situation de ses membres soit étudiée au cas par cas. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que lorsque les enfants vont à Brousse, d'abord, ils ne vont pas par conviction de faire l'armée. Ils vont parce qu'ils ont été matés. Ils vont justement parce qu'ils n'ont pas de capacité. Les seigneurs de guerre profitent du fait qu'ils n'ont pas la capacité de discernement. Donc, je voulais corriger à Aziza que s'il n'y avait pas justement tous ces efforts-là, même les FARDC ne seraient pas délistés de la liste des armées au sein desquelles il y avait des enfants soldats. Mais je rappelle justement que j'ai bien souligné à Isaac que depuis un certain moment, surtout à l'avènement des différentes maladies, essentiellement la maladie à virus Ebola qui a surgi dans les territoires de Beni en août 2018, suivi de la COVID-19, que toutes ces situations n'ont pas justement permis à ce qu'il y ait des efforts. Je voudrais réagir par rapport à l'auditeur. Je suis d'avis avec lui. Parce que lorsqu'un seigneur de guerre arrive dans une famille et réussit à mater deux ou trois jeunes enfants et les amène avec lui, ces enfants, parfois, l'argumentaire, c'est que, par exemple, je donne un exemple, il dit, vous avez commencé les études, les parents n'ont pas pu, voilà, nous, on pense que là où nous vous amenons, vous pouvez avoir une bonne vie. Et l'enfant, et du coup, il est parti et il se retrouve combattant. Mais lorsque le chef ou le seigneur de guerre se désengage et que lorsqu'on récupère l'enfant, il va retrouver les mêmes situations qui ont concouru à son départ de la famille, il y a lieu d'accepter justement que les mêmes faits peuvent produire les mêmes effets. Et donc je crois à ce niveau-là, on doit faire une sorte de cartographie. On dit par exemple pour le Nord Kivu, il y a des territoires dont certains groupements sont secoués, mais il y a d'autres groupements, il y a d'autres coins de ces territoires-là qui sont restés quand même stables. Et que donc, il faut à ce niveau-là mener des actions de développement
d'assurance
qui serviront, oui.
Et à votre avis, parce que vous avez déjà commencé à parler des pistes et des solutions, qu'est-ce qu'il faut pour prévenir les violations des droits des enfants, pas seulement dans les zones de conflit, hein. Et vous savez, il n'y a pas que dans les zones de conflit où les droits des enfants sont violés, et même dans les zones qui ne connaissent pas des conflits, comme Kinshasa, hein. Quand vous êtes dans cette ville, vous voyez les phénomènes appelés communément enfants de la rue, ces enfants qui passent tous leurs jours dans les rues de Kinshasa, il n'y a pas qu'à Kinshasa, hein, dans toutes les provinces, et ils sont là au vu au sud de tout le monde, et les différents gouvernements se sont succédés, aucun de ces gouvernements n'a pu trouver la solution au problème de ces enfants communément appelés enfants de la rue. Il y a aussi ces enfants qui vivent dans les maisons de leurs parents, mais qui ne sont pas alimentés comme il se doit, qui n'étudient pas comme il se doit, parce que les parents n'ont pas d'emploi, et ceux qui ont un emploi, ils n'ont pas un salaire consistant, et voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, à votre avis, pour prévenir les violations des droits des enfants en général, à RDC.
Oui, à mon avis, il faut faire les distinguos. Par exemple, pour Kinshasa, on peut dire qu'il y a quand même, il faut avouer qu'il y a quand même des gens qui viennent des villages parce qu'ils estiment que Kinshasa, la vie est belle, comme on chante et tout, et quand ils arrivent, bon, ils se retrouvent devant une situation assez catastrophique au départ. Donc là, c'est un autre cas qui doit être étudié. En fait, la situation des villes doit être étudiée en aparté, donc d'une manière un peu spéciale. Mais la situation des territoires où sont cachés les seigneurs de guerre qui recrutent des enfants à gauche, à droite, ça doit être aussi étudié d'une manière spéciale. Donc si on y va dans la globalité, la situation des enfants, ça pourrait nous compliquer. Alors j'étais en train de parler de l'auditeur qui, lui, estime qu'il faut beaucoup d'actions de développement. Mais comment mener ces actions de développement pendant que ces territoires sont secoués par les stabilités dites au fait de l'activisme des groupes armés. Mais moi, je dis ceci, que ce soit les Nord Kivu, que ce soit l'Ituri, que ce soit les Sud Kivu, les Katanga, les Tanganyika et ailleurs, il y a quand même des coins ou des territoires qui ne sont pas secoués. Alors, c'est-à-dire au niveau du gouvernement, il doit y avoir des actions qui sont menées, des actions de développement qui sont menées dans des territoires, dans des coins qui sont stables et qui serviront de modèle pour les jeunes qui se retrouveraient dans des situations, en fait, dans des coins qui sont insécurisés. À l'ère 10 ans, vous avez choisi de sécuriser votre coin, mais voici, il y a un coin de votre territoire qui s'est déjà développé. Et donc, c'est une façon aussi de les inciter.
Merci, maître Juvenal Mounoubo Moubi. Nous allons écouter, n'est-ce pas, cette réflexion de cet auditeur qui nous appelle depuis Goma, au Nord Kivu.
Alain Tirolure, je vous appelle à partir de Goma. Cette situation est préoccupante et nécessite des solutions palliatives pour un État qui se veut des droits. Ce qu'ont fait les ambassadeurs n'est qu'un rappel des faits douloureux qui se déroulent dans notre pays. Ainsi, nous plaidons qu'ils ne se limitent pas uniquement à dénoncer, mais pousser le gouvernement à prendre ses responsabilités et au besoin l'accompagner selon leurs compétences dans l'éradication de toutes ces antivalères. Enfin, que ces victimes soient bien encadrées et que la justice s'active pour punir sévèrement les acteurs de ces actes pour que pareille violation ne se produise.
Maître Juvenal Mounoubo Mobi, votre réaction?
D'accord avec M. Alain Tchiroliroué. Les ambassadeurs nous alertent et il revient au gouvernement de prendre ses responsabilités. Je suis tout à fait d'accord. Et même si le gouvernement est démissionnaire, l'État existe parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle la continuité de l'État. L'administration est encore là, ça fonctionne. Mais il y a un rendez-vous qui arrive bientôt, c'est la présentation du nouveau programme du gouvernement. Et il faudrait que lorsque ce programme sera examiné à l'Assemblée, moi j'inviterai la société civile aussi à y apporter ses analyses, ses inputs, parce que c'est le programme du nouveau gouvernement. Et nous serions évidemment intéressés à savoir quelle est la vision du gouvernement pour lutter contre l'impunité, et que prévoit le gouvernement par rapport au DDR, comment faire le DDR différemment de la manière dont le DDR a toujours été réalisé. Parce que si vous avez bien suivi le débat, c'est justement, tous les intervenants pratiquement ont parlé de ce qu'ont été les faiblesses du DDR. Et donc, dans le nouveau programme du gouvernement, il faudrait bien qu'on ait des idées claires par rapport à cela. Je suis tout à fait d'accord avec lui.
Et quelles sont les solutions que vous proposez pour que l'on puisse, dans ces pays, n'est-ce pas, prévenir les violations des droits des enfants? Comme je l'ai dit à Maître Robert Kambale Lufungula, il n'y a pas que dans les zones de conflit où les droits des enfants sont violés. Et même à Kinshasa, même dans les zones, n'est-ce pas, qui ne connaissent pas des conflits armés, et vous trouvez la situation précaire des enfants, les enfants qui vivent dans la précarité. Il y a beaucoup de droits, n'est-ce pas, de ces enfants qui sont violés. À votre avis, c'est quoi la solution, Idoine?
Alors, si les droits des parents sont violés, il va de soi que les droits des enfants les seront aussi. Hein? Si des fonctionnaires ne sont pas bien payés, des enseignants, si ceux-là qui cultivent, il peut y avoir quelqu'un qui n'a pas un travail, ne travaille pas pour l'État, mais cultive, mais il faut qu'on lui donne la possibilité d'évacuer les produits des champs, parce que en évacuant les produits des champs, en vendant les produits de son champ, il peut payer la scolarisation pour ses enfants ou il peut donner à manger à ses enfants. Donc, il faut que l'État aide les ménages, aide les familles. Aussi longtemps que les ménages, les familles, les parents resteront pauvres pour la plupart, les familles congolaises, eh bien, il va de soi que ça aura un impact négatif sur les enfants. Et donc, c'est un problème qui touche toute la société et pas que les enfants, de manière spécifique. Il faut lutter contre la pauvreté, il faut des mesures courageuses, animées par une bonne volonté politique pour lutter contre la pauvreté, relever le niveau des familles. Et par voie de conséquence, les droits des enfants seront protégés.
Joseph Godet Kayembe, vous allez aussi réagir à cette réflexion par l'auditeur qui nous appelle depuis Bukavu au Sud Kivu.
Sikiri Djomba, je vous appelle de Bukavu dans la province du Sud Kivu. Pour moi, les 3000 cas de violation des droits des enfants n'est qu'une échantillon. Si on fait une sans complaisance, on peut documenter au-delà de ces chiffres. Il n'y a pas que les groupes armés qui sont à la base des violations des droits des enfants en RDC. Même le gouvernement congolais n'est pas épargné. Le fait de priver nos enfants les études sans motif valable, c'est aussi une violation à ciel ouvert des droits des enfants. Pour mettre fin à l'impunité, l'État des droits ne doit pas rester un simple slogan. Mais aussi l'État congolais doit tout faire pour imposer son autorité sur toute l'étendue du territoire national, sinon il n'y aura aucun changement, non seulement des droits de nos enfants, mais aussi de tous les citoyens de cette République.
Joseph Godet Kayembe. Voilà, apparemment nous l'avons perdu. Monsieur le ministre Robert Kambale Lufungula, est-ce qu'on peut espérer, en ce qui concerne la lutte pour la promotion des droits de l'homme dans ces pays, la RDC, ça sera sur votre conclusion?
Oui, merci beaucoup. Je crois que
les droits des enfants plutôt, les droits des enfants.
Nous devons garder espoir, mais pour garder espoir, nous devons envoyer des signaux. Les signaux, c'est justement reprendre les activités liées aux audiences de ceux des compatriotes qui sont accusés dans les violations des droits de l'homme et certainement les violations des droits des enfants. Et l'autre signal que nous devons envoyer, c'est aussi le sérieux que nous devrions mettre dans les opérations de traque. Je parle ici de FARDC. L'autre signal que nous devons envoyer, c'est celui de l'activisme des acteurs politiques. Il faut avouer que les acteurs politiques ont un rôle, pas le moindre, à jouer dans la stabilisation de la situation. Et donc, ils devraient aussi être proactifs dans l'approche qui consiste à aller vers nos parents, aller vers nos tantes, pour leur dire que l'État compte sur leur contribution, l'encadrement, Parce qu'il faut avouer bon, que si on accuse à tout moment le fait que les familles ne sont pas stables sur le plan social et économique, bon, on risque de dire que la situation reste telle qu'elle est aujourd'hui. Et donc je crois au-delà du fait qu'il y a des efforts qui doivent être fournis pour améliorer la situation des Congolais, il faut que l'approche pour les politiques, pour tous les acteurs, soit aussi celui de la sensibilisation. Je rappelle ici par exemple, il y a seulement une semaine, le gouverneur de la province Nord Kivu a passé plus de 2 semaines sur le terrain, non seulement en train d'assister ceux qui sont en situation assez complexe de déplacement, dit au fait de l'activisme des groupes armés, mais aussi toucher les sensibilités, parler à toutes les couches de nos populations sur le rôle qu'elles devraient jouer aux côtés du gouvernement.
Merci.
Voilà un peu ce que je voulais dire.
Merci. Joseph Bodé Kayembe, est-ce que vous êtes là?
Je suis là maintenant. Je t'ai coupé.
À votre avis, c'est quoi la solution? Qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir les violations des droits des enfants en général, pas seulement dans les zones de conflit, mais à travers les pays?
Mais d'abord, les gens devaient savoir que la protection de l'enfant, c'est un problème de tout le monde. Ce n'est pas seulement une histoire du gouvernement. Tout individu a l'obligation de protéger l'enfant. Lorsque l'enfant est dans une mauvaise posture, la population est tenue de pouvoir le protéger. Mais particulièrement le gouvernement, le pouvoir public, il en a l'obligation légale. Mais néanmoins, je voudrais dire que ce qui se passe dans notre pays, l'État congolais a pris toutes les dispositions de manière légale, il a, sur le plan formel, formatif, il a prévu des lois civiles, mais qui doivent être appliquées par les juridictions. Si les enfants subissent des violences, ils doivent être à la justice. La justice doit agir pour sanctionner les auteurs afin de prévenir les violences potentielles. Deuxièmement, les gens aussi doivent savoir que la majorité d'enfants qui sont dans la rue, les enfants qui font les activités et qui ne répondent pas à leur âge, c'est aussi par le fait que l'État n'avait pas permis à ce que les enfants aillent à l'école. Aujourd'hui, les parents sont déchargés du fait qu'il y a la gratuité de l'enseignement fondamental et beaucoup d'enfants qui n'allaient pas à l'école aujourd'hui, ils sont allés à l'école. Ça permet à ce qu'on réduise davantage les nombres d'enfants qui vont dans la rue. Des enfants qui allaient à l'école hier, qui étaient chassés par manque de paiement de Minerval, aujourd'hui ils vont à l'école. L'État a fait l'effort par rapport à ça. Mais néanmoins, il faut que l'État puisse avoir finalement des ressources. Des ressources viendront comment? Quand lorsque la même population, lorsque on voudrait arrêter ceux qui voulaient violer, ceux qui ont volé la fin de la République, pour permettre à ce qu'on puisse améliorer les conditions de la population, la même population s'élève en disant nous sommes des militants, nous ne voulons pas qu'on l'arrête.
Joseph Bodé Kayembe, nous sommes à la fin de l'émission. Et votre conclusion, est-ce qu'on peut espérer par rapport à tous les efforts qui sont fournis, n'est-ce pas, pour réduire davantage les violations des droits des enfants dans ces pays, on peut rester optimiste? C'est votre conclusion?
Moi, je suis optimiste. Je suis optimiste pour la simple raison que les mécanismes qui sont en place, c'est lorsqu'ils sont activés, beaucoup d'enfants vont recouvrer leurs droits et la population va s'en réjouir. Deuxièmement, je suis optimiste parce que l'État congolais doit prendre l'initiative de convoquer une conférence internationale avec l'appui des Nations Unies pour réfléchir comment mettre fin aux guerres à l'Est et ça permettra que tous les programmes d'EDR et d'autres puissent être d'application.
Merci. Maître Juvenal Mounoubou Moubi, votre conclusion?
Je pense aussi que par rapport au budget, lorsque viendra le moment de discuter du nouveau budget, les secteurs comme la sécurité, l'éducation, la santé, les routes, la culture, ce sont des secteurs qui doivent avoir des allocations importantes. Pourquoi? Parce que c'est des secteurs qui nous aident à lutter contre la pauvreté, à relever le niveau des familles et à mieux protéger les enfants. Et je crois que le défi est législatif parce qu'on n'a jamais pu doter le pays d'un budget conséquent, en dépit du fait que le pays est très riche en ressources. Le défi est du gouvernement aussi, parce que c'est au gouvernement de nous proposer un budget conséquent, pas un budget de moins de 8 milliards de dollars. Le Congo mérite mieux que ça.
Merci.
Voilà ce que je peux dire. Je reste optimiste et je ne doute pas de l'optimisme du président Félix Tshisekedi pour la protection de l'enfant, parce que cet optimisme, il l'a déjà déclaré à différentes occasions. Et donc, je pense que restons optimistes, mais travaillons beaucoup plus pour relever le défi.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Jean-Claude Nsella qui était à la technique, à Kéline Kout et Donna Madimba qui ont réalisé cette émission sous la supervision de Martin Sabou-Jangwe. À la présentation, Guy Maté. Merci et bon programme sur Radio Capi.